la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette édition matinale du 20 octobre 2014 en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. Avec vous, Nathalie Barge en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, lutte contre Ebola, réunion des ministres des Affaires étrangères européens ce lundi.
Centrafrique, fichier électoral et sécurité sont les maîtres mots pour que la transition prenne fin le 15 février, estime le président de la coalition AFDT, Joachim Reynaldi-Sioké. Sinon,
si les choses ne sont pas prêtes pour organiser les élections, il faut s'adresser aux médiateurs et voir prolongation de la transition, qui ne doit pas dépasser 6 mois.
Nouvelle tuerie dans le Nord Kivu en RDC. Kinshasa pointe du doigt les rebelles ADF Nalu d'origine ougandaise.
Les autorités de Hong Kong accusent des forces étrangères d'être à l'origine des manifestations pro-démocratie.
Et entre autres sujets, nous aurons bien sûr en fin d'émission les sports avec Chérubin Dorsil ce matin et la musique avec Roger Muntou, mais avant tout le journal.
Épidémie d'Ebola, réunion aujourd'hui donc des ministres européens des Affaires étrangères pour discuter de la lutte contre la propagation du virus. Le Libéria, un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés, appelle à l'implication de toute la communauté internationale dans cette campagne de santé publique. En Espagne, une aide-soignante infectée semble à présent hors de danger. Des détails avec Chérubin Dorsil.
L'agence d'aide internationale Oxfam a fait appel aux ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se réunissent ce lundi au Luxembourg, en vue d'une intensification de la lutte contre Ebola. La présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf a déclaré dans une lettre ouverte à la BBC dimanche que la lutte contre le virus Ebola doit susciter l'intérêt du monde entier. Il est du devoir de tous, en tant que citoyens du monde, d'envoyer un message indiquant qu'ils ne vont pas laisser des millions d'Ouest-Africains se débrouiller tout seuls, a déclaré Mme Sirleaf. De son côté, le Canada commencera à envoyer dans les prochains jours à Genève plus de 1000 doses de vaccins expérimentaux offertes à l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de la lutte internationale contre l'épidémie. En Espagne, l'aide-soignante, qui avait été la première personne contaminée par Ebola hors d'Afrique, n'a plus de charge virale, selon le résultat d'un test pratiqué dimanche, a annoncé le gouvernement espagnol. Ici aux États-Unis, plus de 50 personnes qui auraient été en contact avec le Libérien Thomas Eric Duncan, malade d'Ebola qui est décédé à Dallas, au Texas, n'auront plus besoin de surveillance à partir d'aujourd'hui, lundi. L'Organisation mondiale de la santé affirme que plus de 4 500 personnes sont mortes du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Les experts en santé prédisent des milliers d'autres décès avant la fin de l'année.
Au Mali, vaste opération de l'armée française à Kidal. Suite aux tirs de roquettes lancés sur le camp de la mission onusienne le 7 octobre dernier, les militaires français de Barkhane ont mené une opération qui a porté ses fruits. 3 présumés coupables ont été arrêtés et un stock important d'armement a été saisi dans la ville de Kidal. Notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Le 17 octobre, à Kidal, la force Barkhane a mené une vaste opération contre les commanditaires de l'attaque du camp de la MINUSMA du 7 octobre dans la ville Touareg de Kidal. Selon un communiqué déposé à notre rédaction, la force Barkhane affirme avoir retrouvé un stock important d'armement et de munitions au domicile d'une personne impliquée dans cette attaque, notamment des lance-roquettes, des explosifs, du matériel électronique et des grenades. 3 personnes ont été capturées et sont actuellement retenues par les forces françaises. Après interrogation, ces 3 présumés coupables seront transférés aux autorités maliennes. Par cette opération, Barkhane rappelle son intention et son engagement total de ne pas laisser impunis les actes terroristes qui entravent la liberté dans le nord Mali. Des actes terroristes ayant fait déjà beaucoup de victimes civiles et militaires. Gao, Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
La fin de la transition en Centrafrique sera pour le 15 février prochain, selon une annonce vendredi de la présidente Catherine Samba-Panza après sa rencontre avec les forces vives de la nation. Le président de la coalition Alliance des forces démocratiques pour la transition, Joachim Reynaldi-Sioké, n'exclut pas toutefois une éventuelle prolongation de cette période transitoire, forcément tributaire du calendrier électoral. De Bangui, Thierry Mbomba.
La présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba-Panza, a fixé au 15 février 2015 la fin de la transition en cours. Or, la fin de cette transition est conditionnée par l'organisation des élections libres et transparentes qui doteront le pays d'institutions crédibles. Cette annonce est considérée par la classe politique centrafricaine comme seulement un rappel du calendrier consensuel contenu dans la charte constitutionnelle. C'est d'ailleurs ce que dit Joachim Rinaldi Sioké, président de l'Alliance des forces démocratiques pour la transition FDT, qui regroupe presque tous les partis politiques opposants au régime Bozé, qui n'écarte pas l'idée d'une prochaine prolongation de la transition si jamais le calendrier n'est pas respecté.
La fin de la transition FDT 2015 est fixée dans le cadre de la charte constitutionnelle de transition. Il y a aussi une disposition qui dit que si les choses ne sont pas prêtes pour organiser les élections, il faut s'adresser au médiateur et voir prolongation de la transition, mais qui ne doit pas dépasser 6 mois. Aujourd'hui, notre pays n'a pas de fichier électoral pour organiser les élections. Et il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour qu'on travaille à la mise en place d'un fichier électoral.
Il est à noter que le président de l'Autorité nationale des élections, M. Dieudonné Kumbuyaya, avait affirmé que compte tenu de la situation sur le terrain, l'organisation des élections en février 2015 est impossible. Bangui, Thierry Bomba pour La Voix de l'Amérique.
7 soldats égyptiens ont été tués et 4 autres blessés hier par l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule dans la péninsule du Sinaï, indique l'AFP, citant des responsables de la sécurité. Des groupes djihadistes ont multiplié les attentats contre les forces de l'ordre depuis juillet 2013 en représailles, disent-ils, à la répression contre les partisans du président déchu Mohamed Morsi.
3 adolescentes de Denver, dans le Colorado, sont de retour aux États-Unis après avoir disparu de leur domicile vendredi dernier et avoir été arrêtées plus tard à Francfort, en Allemagne. Des proches des jeunes filles ont dit à La Voix de l'Amérique qu'elles s'étaient rendues à Francfort via Chicago. 2 des filles sont des sœurs d'origine somalienne âgées de 15 et 16 ans. La troisième est d'origine soudanaise. Une des adolescentes aurait dit aux autorités allemandes qu'elles allaient en Turquie pour étudier.
Washington, La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée américaine affirme que ses avions cargo ont livré des armes, des munitions et des fournitures médicales des autorités kurdes en Irak aux Kurdes qui luttent contre les militants d'État islamique dans le nord de la Syrie. Selon une déclaration du commandement central américain, les parachutages ont eu lieu dimanche soir dans la région de Kobané pour ravitailler les Kurdes afin qu'ils puissent continuer d'empêcher les djihadistes de prendre le contrôle de la ville. Hier, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays n'armerait pas les combattants kurdes, les qualifiant de semblables au parti des travailleurs du Kurdistan, que la Turquie et les États-Unis considèrent comme un groupe terroriste.
Par ailleurs, les autorités turques ont empêché des activistes de la France, de l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne d'apporter des médicaments et des vivres à Kobané, ville syrienne limitrophe de la Turquie. Issia Kaba.
Selon un activiste social de la France joint près de la frontière avec Kobané par le service kurde de la VOA, les autorités turques ont non seulement bloqué le transfert de l'aide médicale et alimentaire, mais elles ont également empêché le retour en Syrie de combattants kurdes voulant se joindre à la lutte contre les djihadistes. La Turquie ne se limite pas à nous empêcher, nous autres activistes civils, de traverser la frontière, mais aussi les habitants de Kobané qui ont amené leurs enfants et vieillards dans la zone frontalière avant de retourner à la ville pour lutter contre l'État islamique. Arki est parmi 10 volontaires de différents pays de l'Union européenne qui sont en Turquie, tentant de traverser la frontière avec la Syrie avec du matériel de secours. Il a dit à la VOA que les besoins en médicaments et autres fournitures médicales sont urgents dans cette ville où la plupart des hôpitaux et pharmacies ont été détruits par les bombardements de l'État islamique. Ces combats ont continué dimanche après une brève accalmie. Samedi, les affrontements sur le terrain et les frappes de la coalition ont fait des dizaines de morts parmi les djihadistes. Au moins 7 combattants kurdes ont été tués. Bien qu'il contrôle 50% de la ville, l'État islamique a enregistré de lourdes pertes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres.
Dans l'est de l'Ukraine, 4 civils ont été tués hier dans de nouveaux combats entre l'armée et des séparatistes pro-russes. Le cessez-le-feu conclu le mois dernier est toutefois suivi, mais à Donetsk, les forces gouvernementales et les insurgés s'affrontent quasiment quotidiennement pour le contrôle de l'aéroport.
Le chef de l'exécutif de Hong Kong a accusé des forces étrangères, sans les nommer, d'être à l'origine des manifestations pro-démocratie. Dans un entretien télévisé dimanche, Leung Chin-ying a affirmé que le mouvement qui a commencé depuis plusieurs semaines n'est pas entièrement dirigé de l'intérieur du territoire, ce qui fait écho à de récentes accusations dans la presse officielle chinoise disant que les États-Unis et d'autres pays occidentaux manipulaient les protestations à Hong Kong.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique avec vous, Nathalie Barge. En République démocratique du Congo, plus de 20 personnes ont été tuées ce week-end en territoire de Beni, dans le Nord Kivu. Un bilan qui s'ajoute à 30 personnes abattues la semaine dernière dans la ville de Beni. Le gouvernement congolais pointe du doigt les rebelles d'origine ougandaise, ADF Nalu. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigwa.
Plus de 50 personnes ont été sauvagement abattues à Beniville et Beni Territoire dans moins de deux semaines. Le chef de poste d'encadrement administratif de Rengeti, Katsurana Wakwima Alexis, explique.
Ces gens ont été tués par machette, hache. On a même trouvé des houes qu'ils utilisaient pour tuer ces personnes. Donc ils déchiraient les têtes ou soit découpaient les bras et consorts comme ils pouvaient le faire pour massacrer ces gens.
Le député provincial Ushindi Kyalondawa déplore le comportement du gouvernement qui avait crié victoire avant de mettre hors d'état de nuire les rebelles ougandais ADF.
Notre population est en train d'être massacrée d'une façon sauvage. Disons que nous regrettons parce que le gouvernement a anticipé la victoire. Et cette victoire, vraiment, on ne devrait pas la célébrer de cette façon parce que nous trouvons que la population n'est pas protégé, n'est pas sécurisé. Donc on s'est précipité en disant qu'on a gagné la guerre alors que l'ennemi a fui, l'ennemi est allé se préparer. L'ennemi, quand il est revenu, il a trouvé que la population est restée sans sécurité.
Certains acteurs de la société civile ne croient pas réellement que ce sont les rebelles ougandais ADF qui commettent ces forfaits sur les populations locales. L'un parmi eux a requis l'anonymat.
La terre n'avait pas encore refroidi sur les corps ensevelis que la même nuit du 17, Eringeti était la cible des égorgeurs. Même mode opératoire. Comme des chats, les égorgeurs entrent dans un village et sèment la mort calmement, avant de se retirer tout aussi calmement, en nous laissant le soin de compter nos morts, en nous laissant le soin de compatir avec les survivants, en attendant pour eux de frapper de nouveau, où ils veulent et quand ils veulent. Mais qui tue donc les Congolais? À cette question, je pense que personne ne nous a encore donné de réponse crédible.
Le représentant du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, compatissait avec les habitants de Beni avant le dernier forfait et rassurait que la MONUSCO aiderait les FARDC pour sécuriser la population.
C'était un carnage, c'était un massacre et c'est pas acceptable. Et nous avons parlé la coopération au futur afin que ça ne se passe encore. C'est très important de faire des actions communes, les FARDC, conjointement avec la MONUSCO, les forces, la brigade d'intervention ici, afin de protéger les civils et vraiment de faire clair que ce n'est pas acceptable, que ces groupes des ADF doivent être détruits.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudaigwa, La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Sensibiliser les jeunes des 8 régions du Mali et des 6 communes de Bamako pendant 4 mois. Tel est l'objectif d'un projet dénommé « Médiateur pour la paix ». C'est une initiative du Conseil national de la jeunesse en collaboration avec l'ambassade des États-Unis au Mali. Ce projet visant à former les jeunes pour combattre l'extrémisme est financé à hauteur de 26 millions de francs CFA. Kassim Traoré à Bamako nous en dit plus.
Les jeunes leaders du Mali vont en guerre contre l'extrémisme violent. Ils seront formés pour sensibiliser les autres jeunes dans les 8 régions administratives du Mali, plus les 6 communes du district de Bamako. C'est une initiative du Conseil national de la jeunesse du Mali, dont le président est Mohamed Saliatou.
De façon spécifique, ce projet vise à organiser des rencontres régionales de sensibilisation des jeunes, à former les jeunes médiateurs pour la paix, à créer des comités de jeunes médiateurs pour la paix, à créer aussi un réseau viable des jeunes médiateurs pour la paix qui vont influencer les comportements de leurs pairs sur toute l'étendue du territoire malien pour promouvoir la paix et la non-violence.
Médiateur pour la paix doit permettre aux jeunes leaders formés de faire la restitution de leur formation dans leurs localités respectives. Le partenaire financier est d'accord avec la démarche. André Young, chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Mali.
Il est appréciable que vous, les jeunes, se sont réunis aujourd'hui et vous s'impliquez dans la recherche de la paix à travers les actions de sensibilisation et de formation au niveau national. L'extrémisme violent continue d'avoir des partisans. Il y a certaines personnes qui déforment le discours religieux pour que devienne une arme de la haine au lieu de la paix. Mais vous avez une opportunité de changer cela.
Pour le fonctionnement de ce projet et sa mise en exécution correcte, un coordinateur a été choisi qui a profité de la cérémonie de lancement pour expliciter les attentes. Ibrahim Maïga.
390 jeunes médiateurs pour la paix sont formés. 14 comités de jeunes médiateurs pour la paix sont créés. Un réseau viable de jeunes médiateurs pour la paix est créé pour influencer les comportements des jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Des messages sur la paix sont élaborés et envoyés par SMS. Un livret de messages de paix des jeunes sur la paix du Mali est conçu.
Le ministère de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne se réjouit du lancement du projet Médiateur pour la paix. Djibril Soumbounou, chef de cabinet.
Les valeurs d'acceptation de l'autre, du pardon, de la tolérance, de la cohésion sociale, de la diversité et de l'unité que les facilitateurs développeront pendant cette campagne permettront, je l'espère fortement, de modeler les citoyens actifs et responsables que doit incarner chaque Malien.
Après ce lancement officiel à Bamako, place à la formation des formateurs qui débute par le pool de Gao. Il va réunir à Gao les jeunes de la cité des Askia, de Tombouctou et de Kidal. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Un accord de cessez-le-feu aurait été trouvé la semaine dernière entre les autorités du Nigeria et la secte islamiste Boko Haram. Les négociations ont été conduites sous l'égide du Tchad. Comment est perçue cette nouvelle chez les voisins du Nigeria ? Un élément de réponse avec notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa.
Les premières réactions à l'annonce de cet accord de cessez-le-feu sont plutôt mitigées chez beaucoup de citoyens nigériens.
À première vue, moi je pense bien que c'est une bonne chose pour le peuple nigérien et pour les pays voisins, dont le nôtre, le Niger. Mais nous restons sceptiques jusqu'à voir la concrétisation de cet accord. C'est vrai, aujourd'hui, des sources concordantes nous permettent de croire qu'il s'agit réellement d'un accord, puisque on parlerait quand même du chef de cabinet du président Goodluck qui était impliqué dans ces négociations et du président tchadien Idriss Déby.
Bon, ça m'a fait plaisir si vraiment ils peuvent arriver à un accord. Mais maintenant, il faut savoir si c'est juste un cessez-le-feu, si c'est un accord pour une paix durable ou pour une paix définitive.
Les dernières évolutions de la situation sur le terrain avec les attaques de villages enregistrées samedi sont venues renforcer le pessimisme de beaucoup d'autres Nigériens.
Nous faisons que nous réjouir par rapport à la nouvelle. Les gens ont avancé qu'il y a eu un cessez-le-feu et le cessez-le-feu n'a pas été respecté. Parce que rien qu'hier, tard dans la soirée, deux villages ont été attaqués. Et il y a eu des tueries, il y a eu des carnages. Et les accusations sont portées sur ces groupes. Il y a une contradiction entre les engagements pris par les Occidentaux et certains pays africains qui ont décidé de lutter contre ces groupes. Mais parallèlement encore, s'il y a une négociation, ça veut dire que les autorités locales ont reconnu ces groupes en tant que partie avec qui il faut s'asseoir pour négocier. Soit c'est un groupe terroriste qu'il faut combattre, soit c'est un groupe dont sa légitimité est reconnue.
Aucune réaction officielle des autorités n'a encore été enregistrée. Abdulrazak Idrissa, en Niamey, pour La Voix de l'Amérique.
Et au Cameroun, l'on est prudent également face à la nouvelle, nous dit notre correspondant à Yaoundé, Jules Lobo.
L'accord de cessez le feu négocié entre les autorités nigérianes et les leaders de la secte Boko Haram ne semble pas convaincre les observateurs avertis. D'aucuns convoquent même la prudence face aux multiples facettes dont disposerait la secte islamiste. Serge Aimé Bikoy, sociologue.
S'il y a par exemple 10 facettes de Boko Haram et que l'on a entamé justement cette dynamique de négociation avec 6 facettes, ça veut dire qu'il y a 4 autres qui vont rester, créer justement cette escalade insécuritaire. Et là, ça va poser un problème. Deuxième aspect, c'est que il faut également relever que au niveau de ce jeu des différents acteurs, notamment au niveau de la configuration des assaillants, on se serait attendu que ce fût la figure emblématique de Boko Haram qui puisse justement s'exprimer, Aboubakar Shekau. Si c'est lui qui était monté au créneau justement pour relever que la guerre s'est terminée, là au moins ça aurait eu une certaine crédibilité.
Les différentes attaques perpétrées par les éléments de Boko Haram au Nigeria et au Cameroun démontrent l'important arsenal dont disposent les assaillants, ce qui fait dire à certains que la fin de la guerre n'est pas pour demain. Eugène Martial Ongba, géostratège.
Le dernier communiqué venant du ministère de la Défense fait allusion à l'apparition des blindés à chenilles. Ça, on ne l'avait pas vu avant.
L'entrée en action dans les prochaines semaines d'une force multinationale, selon les experts réunis il y a quelques jours à Abuja, est loin d'être la solution pour certains. Stéphane Akwa, politologue et spécialiste des questions de sécurité.
Je me demande qu'est-ce que la CBLT fera de mieux que les autres systèmes de paix et de sécurité n'ont pas réussi à faire depuis de nombreuses années.
En attendant l'entrée en vigueur de l'accord et surtout la libération des jeunes filles kidnappées, le Cameroun, lui, poursuit sa guerre contre Boko Haram. La dernière attaque enregistrée cette semaine fait état d'une centaine de terroristes tués. Yaoundé, Jules Lobo pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les milices kurdes qui défendent la ville syrienne de Kobané à la frontière turque semblent reprendre du terrain. Grâce au soutien aérien de la coalition, ils ont non seulement arrêté la progression des djihadistes, mais sont parvenus à reconquérir certaines positions. Non loin de là, en Turquie, le gouvernement refuse d'autoriser les transferts d'armes vers les combattants kurdes qu'il assimile au Parti des travailleurs du Kurdistan. Une analyse est mise à jour avec Scott Bob, envoyé spécial de La Voix de l'Amérique, au micro de Chérubin Dorsil.
Depuis 4-5 jours, ils ont dû reculer et les milices kurdes ont repris plusieurs positions, non seulement à Kobani, mais dans les alentours, les faubourgs, les villages qui entourent cette petite ville au nord de la Syrie. Ils ont été bien sûr beaucoup aidés par les frappes de la coalition, mais c'est surtout les avances sur terre par les Kurdes, les milices, qui ont vraiment leur donné ce nouvel espoir. Pourtant, les combattants de l'État islamique continuent très fort. Ils ont eu des renforts venant de l'Est et ils continuent surtout à bombarder le poste frontière parce qu'ils ne veulent pas que les Kurdes reçoivent de l'aide militaire, ni de médecine, vivrière, n'importe quoi, parce que c'est leur seul contact avec l'extérieur. Donc, ils tiennent vraiment à tenir cette ville. Pourtant, les Kurdes aussi sont très courageux d'après les nouvelles qu'on entend. Donc, il est prévu que ces combats continuent pour bien un peu de temps.
Rien n'a changé dans la position de la Turquie?
La situation avec ses propres Kurdes est très compliquée et ça date depuis 30 ans. Aussi, la Turquie ne veut pas envoyer des troupes terrestre en Syrie, seul, sans un appui international. Et en plus, pour la Turquie, qui a déjà eu des attaques terroristes venant de toutes sortes de côtés syriens, c'est une menace. Pour n'importe quel pays frontalier, il faut vraiment peser, équilibrer les avantages et les désavantages d'une telle excursion militaire. Donc, ça continue, mais il paraît que la Turquie se sent un peu en besoin de céder aux pressions de l'Occident pour aider plus ces combattants qui combattent l'État islamique. Mais pour la Turquie, le grand ennemi, c'est Bachar al-Assad.
Et jusqu'à présent, les journalistes ne peuvent pas vraiment entrer dans Kobané.
Non, c'est interdit à la frontière. Seulement des Syriens peuvent entrer et sortir. Et souvent, s'ils sont identifiés comme des combattants, ils ne sont pas non plus permis de traverser la frontière.
Scott Bob qui parlait du côté turc de la frontière près de la ville syrienne de Kobané. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Nous accueillons à présent Chérubin Dorsil pour les sports. Bonjour Chérubin.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors en football, parlons des temps forts et des temps moins forts. Jusqu'à présent des éliminatoires de la CAN 2015.
Voici comment la Confédération africaine de football résume la situation, Nathalie. Seule équipe déjà qualifiée, l'Algérie. Le 11 de Christian Gourcoff, qui a remplacé Vahid Halilhodžić, a définitivement affirmé et confirmé son leadership continental, étant maintenant la meilleure sélection d'Afrique dans le classement FIFA. Presque qualifié, le Cap-Vert, qui a besoin d'un tout petit point, soit face au Niger, soit en Zambie. L'Égypte refait peau neuve après deux échecs en début de championnat. Les Pharaons ont 4 points de retard sur la Tunisie, mais un seulement sur leur prochain adversaire, le Sénégal. Les Ivoiriens ont perdu pour la première fois au stade Félix Houphouët-Boigny depuis le 4 septembre 2005, 4-3 face à la RDC. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs la pire défense avec 10 buts encaissés. Condoléances à mon collègue Jean-Roger Bion, un fan inconditionnel des éléphants. Les champions d'Afrique se portent très mal. En effet, le Nigeria ne compte que 4 points pour autant de matchs. Stephen Keshi a été remercié après la 4e journée. Ces équipes demeurent invaincues. Algérie, Cameroun, Tunisie, Afrique du Sud, Gabon et Ghana. On connaît déjà 2 éliminés, le Botswana et la Sierra Leone. Et le Botswana est la seule équipe à n'avoir marqué aucun point.
Quant aux pays hôtes de la CAN 2015, Chérubin, qui pourrait remplacer le Maroc en cas de désistement?
En tout cas, par l'Afrique du Sud, car la Fédération sud-africaine de football a bien clarifié les choses vendredi concernant les rumeurs faisant état de son intention d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en cas de désistement du Maroc pour des raisons liées au virus Ebola. Par ailleurs, au Ghana, les médecins du pays ont rejeté l'idée d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations en janvier et ont annoncé qu'il serait risqué d'accepter la demande de la Confédération africaine de football en raison des dangers relatifs au virus Ebola sur la population.
Alors, football au niveau des clubs?
En Afrique, dans le cadre de la 34e journée du championnat du Cameroun de football, hier dimanche, le Coton Sport de Garoua a fait l'essentiel, victoire 1-0 face au Canon Yaoundé. Au classement général, le Coton Sport est en tête avec 64 points, suivi d'Unisport Onkam qui compte 61 points, juste un point devant le Cosmos Bafia qui en a 60.
Et pour finir, parlons du championnat d'Afrique de handball.
Les Angolaises de Primeiro Agosto ont remporté le 36e championnat d'Afrique des clubs champions de handball en battant leurs compatriotes de Petro Atlético, tenantes du titre 28-25 en finale ce week-end à Tunis. Pour leur part, les Tunisiens du club africain, déjà vainqueurs du tenant du titre l'Espérance de Tunis en demi-finale, ont confirmé en dominant les Égyptiens d'Al Ahly 24-18 en finale, remportant ainsi leur premier titre africain en club champion. Voilà pour les sports.
Merci beaucoup, Chérubin, pour cette page sportive. Et à présent, la page musicale avec Roger Muntou. Bonjour, Roger.
Bonjour, Nathalie. L'artiste jamaïcain Wayne Marshall est né à Kingston. Jeune, il suivra son père qui réussit pas mal dans les affaires. Le hasard fait bien les choses, hein, puisque la famille Mitchell s'installe à 2 pas de la maison d'un des rois de la production, King Jamie. Ce dernier, Lloyd James de son vrai nom, verra ainsi le petit Wayne Marshall traîner devant son studio à guetter les DJ venus enregistrer des sons. On l'écoute donc ce matin dans Impress.
Staring at the pictures and the numbers in my phone. Wondering to myself why I'm single and alone. All I ever wanted is someone to call my own. I'm tired of the vixens, I don't need no video hoes.
Alors c'est dans ce studio projet de King Jamie que Wayne Marshall verra ses idoles, notamment Bounty Killer, Elephant Man, n'est-ce pas?
Oui, Nathalie, le jeune Wayne Marshall débute ainsi en imitant le Warlord ou les stars du moment et en cherchant par tous les moyens à percer dans les milieux du dancehall. En 2010, il effectue un bon duo avec Movado, My Heart. Mais il est encore dans l'ombre d'une autre star du dancehall. Alors avec cette chanson Impress, il a finalement appris à voler de ses propres ailes, Nathalie.
Wayne Marshall, Impress. Merci beaucoup Roger.
C'est moi qui vous remercie Nathalie. Bonne journée à vous et à tous nos amis qui nous écoutent en ce moment même à Bandalungwa, une zone de Kinshasa.
Vous retrouverez Roger Muntou dans le RM Show à 20h, temps universel.
Where the empress them?
teacher. Where the empress them, where a singer. Where the empress them, where a doctor. Where the empress them, where a tech boss. Where the empress them, where a drive. Where the empress them, where the empress them, there. Where the empress them,
Voilà, c'était Le Monde aujourd'hui. Nathalie Barge en compagnie de Anne Albertson. Retrouvez-nous sur lavoixdelamérique.com et sur notre page Facebook. Bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.